aujourd'hui, après deux cours, un peu d'introduction sur les sacrements en général, pouvoir entrer dans le cœur de notre sujet du premier et du deuxième trimestre, l'Eucharistie elle-même, sacrement extrêmement riche, complexe aussi, c'est le Mysterium Fidei, c'est ce que le prêtre dit à chaque fois qu'il consacre le sang du Christ, il répète ce mot Mysterium Fidei, l'Eucharistie est le mystère de la foi, en ce sens où il dépasse ce que notre œil peut voir, c'est l'aspect de la présence réelle, inaccessible aux yeux et aux sens, et en ce sens aussi où l'Eucharistie est une sorte, pas de résumé, mais de lieu dans lequel on retrouve tout le mystère de la foi, toute la foi, et notamment la foi dans le Christ et dans son œuvre salvifique, dans le mystère de la rédemption, tout cela est contenu dans l'Eucharistie, ça nous dépasse. Ça nous dépasse énormément, la messe. La messe, c'est magnifique, et on balbutie un peu devant pour essayer de lever le voile et de dire des choses sur ce mystère que saint Thomas appelle aussi le bien commun de toute l'Église, la chose la plus précieuse que l'Église possède, le mystère de l'Eucharistie. Alors on va essayer aujourd'hui de jeter un regard un peu global sur ce mystère, d'essayer de voir les différentes facettes rapidement, de voir les connexions entre ces facettes, avant les prochaines fois d'aller plus au fond des choses et d'analyser chacun des différents aspects de l'Eucharistie. Aujourd'hui, on va essayer de mettre de l'ordre dans ce mystère. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement riche, tellement complexe aussi, que la tentation est grande de ne voir qu'un seul aspect et d'insister énormément sur un aspect au détriment des autres. Et le risque, c'est de déséquilibrer le mystère en insistant que sur une facette, selon l'époque, selon le temps, et d'oublier le reste. Le sacrement s'en trouve abîmé, amoindri. Alors on va essayer, nous, de voir tout ce qu'il contient, tout ce que l'Église a pu dégager de richesse dans ce mystère, et de voir peut-être s'il n'y a pas une donnée qui assume les autres et qui permet de résumer ce qu'on appelle l'essence de l'Eucharistie. Qu'est-ce que c'est l'Eucharistie en un mot ? On va essayer, je ne dis pas qu'on va y réussir. Voilà, c'est l'un des points que je voudrais, l'un des accents du topo d'aujourd'hui. Je vous ai mis au début, d'abord, un résumé de saint Thomas d'Aquin dans un petit texte qu'il a écrit qui s'appelle « De articulibus fidei », des articles de la foi, qui est un texte très accessible parce que c'est une sorte de grand résumé, même petit résumé, c'est pas si long, des grands mystères. Et il nous parle de l'Eucharistie, il nous fait un résumé très simple de mystère de l'Eucharistie. Donc c'est pas mal pour commencer, pour ne pas nous perdre. Mais pour comprendre le texte, il faut que je vous dise quelque chose avant. Parce qu'il y a dans le texte des distinctions classiques, quand on parle des sacrements, mais qui ont été perdus de vue aujourd'hui, qu'on ne connaît plus, ne sont plus enseignés, et sur lesquels je vais revenir. J'y reviens, d'ailleurs je suis allé regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, la distinction y est, et dans les résumés de la conférence des évêques de France qui parlent du sacrement de l'Eucharistie sur Internet, ils expliquent ces distinctions-là. Mais on les voit plus, et du coup elles peuvent nous paraître un peu obscures. C'est ce que je vous ai mis au début, tout au début donc, dans « Effet du sacrement ». En effet, depuis Saint-Augustin, pour essayer de mieux comprendre un sacrement, on fait une distinction entre trois choses dans le sacrement. Trois degrés de profondeur dans un sacrement. Vous vous souvenez que c'est un signe sensible, un sacrement. Donc on commence, la base du sacrement, c'est la réalité sensible, ce que mes yeux voient, ce que mes mains peuvent toucher. Ça va être le premier étage du sacrement. Et après, on va aller en profondeur, pour essayer de savoir ce qu'il y a derrière, caché dans le sacrement. Et en fait, il y a deux étages, deux niveaux de profondeur dans chaque sacrement. Ce qui va donner cette division entre trois points. En latin, le sacramentum tantum, qu'on appelle le signe seulement, premier niveau. Le signe seulement, quand on réfléchit sur le sacrement, c'est le signe sensible l'eau qui coule sur le front de l'enfant, le Saint-Crème, l'imposition des mains. C'est la réalité sensible qui n'a qu'un but, signifier quelque chose de caché. C'est pour ça qu'on appelle sacramentum tantum, seulement signe, parce que c'est la seule réalité, le seul objectif de cette chose-là, c'est de signifier quelque chose qui est caché derrière. Donc premier niveau, premier étage, sacramentum tantum, signe sensible lui-même. Deuxième niveau, deuxième étage, et là on est déjà dans l'invisible, dans les choses invisibles qui se passent dans notre âme au moment où on reçoit un sacrement, c'est ce qu'on appelle la res et sacramentum. Res, réalité, parce qu'il y a déjà quelque chose de réel, invisible, mais réel, qui se passe dans notre âme, ou qui se passe dans le sacrement, attention, dans notre âme pour tous, sauf pour l'Eucharistie justement, donc, je ne vais pas vous compliquer les choses, c'est la réalité signifiée par le signe seulement, le sacramentum tantum, une réalité invisible, mais qui elle-même va être le signe d'autre chose et va nous amener à une nouvelle profondeur, à quelque chose de plus caché derrière. Troisième niveau donc d'invisibilité, de réalité, qu'on appelle res tantum, le troisième niveau, la réalité seulement. Et là, on s'arrête, entre guillemets. On s'arrête, cette dernière réalité, cette ultime réalité, n'est le signe de rien d'autre après. C'est le trésor que nous apporte chaque sacrement. Donc, vous voyez bien, ces trois niveaux, sacramentum tantum, res et sacramentum, une réalité intermédiaire entre le sacramentum tantum et la res tantum, troisième niveau de réalité. Pour prendre le baptême, par exemple, le sacramentum tantum, c'est le signe sensible, l'eau coulant sur le front de l'enfant, tandis que le prêtre dit les paroles « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ça, c'est le signe sensible, c'est la chose extérieure, ça passe par nos sens, on l'entend, on le voit. Premier niveau de réalité invisible dans le baptême, ça va être le caractère. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais vous savez que trois sacrements impriment dans l'âme une réalité invisible, une marque indélébile qu'on appelle un caractère, une marque un sceau qui nous conforme avec le Christ. Il y a ça dans le baptême, dans l'ordre qui fait les prêtres et dans la confirmation. Donc, pour ces sacrements, c'est assez simple. La res et sacramentum, la réalité intermédiaire, c'est toujours le caractère, réalité surnaturelle, invisible, mais ce n'est pas encore le trésor ultime que nous apporte le sacrement, la res tantum, qui est la grâce, toujours. Le sacrement, la réalité, le trésor qu'apporte un sacrement, c'est la grâce, cette vie intérieure, qu'on avait un peu détaillé la dernière fois en expliquant que chaque sacrement apporte sa grâce avec une modalité, un dessein particulier selon les besoins qui sont les nôtres au moment où on reçoit le sacrement. J'avais développé ça pour la confession, montrant comment la grâce du sacrement de confession s'adapte à l'état de notre âme, vient nettoyer, purifier les blessures qui sont les nôtres. Cette grâce sacramentelle qui se modélise selon notre âme, mais qui est toujours, voilà, toujours, c'est la grâce affectée d'une modalité particulière. Bon, vous avez ce schéma qui marche pour tous les sacrements, qui est la structure d'un sacrement. Et à présent, avec saint Thomas, on va essayer de l'appliquer au sacrement de l'Eucharistie en lisant le texte que je vous ai fait passer, résumé de la doctrine eucharistique, selon saint Thomas. Le troisième sacrement, alors avant il y avait le baptême et la confirmation, vous vous rappelez l'ordre qu'on avait dit, hein, baptême, confirmation et Eucharistie, les trois sacrements de l'initiation. Le troisième sacrement est celui de l'Eucharistie. Et là il va résumer les différents aspects de ce sacrement. Il a pour matière le pain de froment et le vin de la vigne, mêlés d'un peu d'eau, de sorte que l'eau passe dans le vin, car l'eau signifie le peuple qui est incorporé au Christ. Vous voyez, en passant, vous retenez cette, ce symbolisme, vous savez que le prêtre, lorsqu'il célèbre la messe, remplit le calice de vin et verse ensuite une goutte d'eau qui se dissout dans le vin, qui disparaît et qui est le signe de notre incorporation à nous dans le sacrifice du Christ. Nous sommes appelés par ce geste-là, qui est réalisé au moment de l'offertoire, à nous unir au sacrifice qui est en train de se réaliser devant nous. Le peuple qui est incorporé au Christ. Un signe extrêmement riche, puisque la finalité de l'homme, c'est quand même d'être incorporé au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et la messe réalise cela. On va le voir un peu plus en détail. Ce sacrement ne peut pas être consommé avec un autre pain que le pain de froment, ni avec un autre vin que celui de la vigne. Pourquoi cette radicalité de la matière? Parce que c'est comme ça que le Christ a fait. Il y a des sacrements dans lesquels la matière sera plus ou moins changeante selon l'époque ou selon le rite oriental ou latin. Mais pour l'Eucharistie, le Christ lui-même a pris du pain et a pris du vin. Et donc, il a, pour ce sacrement-là, précisément, donné la matière précise qu'il fallait utiliser. Et comme vous le savez, un sacrement, toute la force d'un sacrement relève uniquement du fait que le Christ a décidé que ça marcherait. Hein, c'est pas magique, un sacrement. Toute la force du sacrement, elle relève de l'institution. Le Christ a fait ainsi et a dit qu'en faisant ainsi, il se passerait ça. Et donc, nous, pauvres humains, si nous voulons retrouver l'effet que le Christ a promis, il faut reproduire l'acte que le Christ a institué. Et donc, on n'a pas de liberté quant à la matière du sacrement de l'Eucharistie, du pain et du vin, et on précise du pain de froment et du vin de vigne. D'où plein de débats de savoir si dans tous les pays, est-ce que c'est un signe universel, On rentrera peut-être un peu dedans plus tard, là pour le moment, restons-en à la doctrine. Matière, élément indéterminé, symbolique, mais qui peut signifier pas mal de choses. Et donc, il faut que la matière soit associée à une forme, une parole, qui va préciser ce qui est en train de se passer, qui va préciser le sens du signe. La forme de ce sacrement, c'est la parole, mais ce sont les paroles suivantes, qui sont celles mêmes de Jésus-Christ. « Hoc est corpus meum » et « Hic est calix sanguinis mei » ceci est le calice de mon sang, de l'alliance nouvelle et éternelle, le mystère de foi, « mysterium fidei » qui probabilise qui pour vous et pour la multitude est répandu pour la rémission des péchés. On discutera à savoir qu'est-ce qui est essentiel à la forme, si quel mot on change, on peut changer, tout ça. Le cœur du cœur, vous voyez, du sacrement, ce qui, sans aucun doute, est absolument nécessaire pour qu'il y ait présence réelle, pour que le sacrement soit valide, c'est « hoc est » corpus meum, ceci est mon corps, et ceci est le calice de mon sang. Ceci est mon sang, je vais fouiller parce que j'ai un doute, je n'ai pas encore traité cette partie-là. Mais le cœur du cœur, il est là. Le cœur du cœur des paroles, il est là. Vous savez, dans la formule latine, on dit « hoc est enim corpus meum ». Donc saint Thomas pose la question, si on enlève le « enim », est-ce que c'est valide ? Oui, c'est valide, mais c'est gravement illicite. Gravement interdit. Pourquoi ? Parce qu'on prive. L'idée est toujours la même. Le sacrement ne fonctionne que si on fait ce que le Christ a fait. Donc les paroles, on ne les invente pas. On va les lire dans l'Écriture sainte, ce qu'on fera la prochaine fois. On ira voir ce qui est marqué dans l'Écriture sainte. Et ce sont ces paroles-là que nous recevons et que nous répétons pour effectuer le sacrement. Et saint Thomas continue, le prêtre en effet réalise ce sacrement parlant au nom même du Christ, in persona Christi. Ça fait vraiment partie du cœur du sacrement, si bien que si le prêtre disait « ceci est le corps du Christ », ce qui est vrai, c'est le corps du Christ, hein, c'est vraiment, il ment pas, et même le sacrement ne serait pas valide. Parce que le cœur du sacrement est justement cette identification du prêtre qui célèbre et de la victime, l'hostie qui est en face de nous. Ce mystère est tellement riche, tellement délicat que le moindre écart rend toute la structure et fait écrouler toute la structure. Le cœur du sacrement de l'Eucharistie, c'est l'identification entre le prêtre et la victime, entre celui qui offre et celui qui est offert. D'où le « ceci est mon corps », dit par le prêtre qui, à ce moment-là, n'a plus sa personnalité humaine, mais n'est plus que l'instrument totalement docile du Christ qui agit. Réellement, celui qui fait la messe, c'est le Christ. C'est le Christ. Toute la force de la messe, c'est le Christ. Et c'est pour cela que de la bouche du prêtre sort les paroles du Christ. Entre le prêtre et le Christ, à ce moment-là précis, il n'y a plus de différence. Dans le reste de la messe, si. Dans le reste de la messe, on étudiera les rites. Il y a certains moments où le prêtre parle en son nom propre. Priez mes frères pour que ce sacrifice qui est aussi le mien, ou mon sacrifice qui est aussi le vôtre, là il parle en son nom propre d'homme, prêtre ordonné, célébrant une action particulière. Et il se distingue du Christ. Mais plus on s'approche de la consécration, moins cette distinction est là, et plus il y a une identification jusqu'au sommet, où là ce n'est plus que le Christ qui parle. Voilà. C'est ça l'ordination sacerdotale qui identifie l'homme prêtre au Christ dans certains moments de sa vie, et notamment lorsqu'il fait un sacrement. Le ministre de ce sacrement est le prêtre, et personne d'autre que lui ne peut consacrer le corps de Jésus-Christ. Notez-le bien, ça c'est important, mais je pense que vous en êtes convaincus, il faut avoir reçu le sacrement de l'ordre pour pouvoir consacrer validement. Point barre. Aucun autre moyen de pouvoir consacrer validement que le sacrement de l'ordre, qui d'ailleurs, du coup, par contre-coup, on est ordonné pour consacrer. Un prêtre qui consacre, qui dit la messe, il réalise son ministère essentiel. Il est prêtre à temps plein. Il peut aller se coucher après, il peut. Alors, il faut dire son bréviaire parce que c'est une obligation, c'est une partie du devoir. Mais le cœur du sacerdoce, c'est dans le fait d'offrir le Saint-Sacrifice de la messe. Quelque chose qui s'est beaucoup perdu, qui était perdu de vue aujourd'hui, quand on parle de l'identité du prêtre, dans les années 60-70, les prêtres ne savaient plus quelle était leur identité, à quoi ils servaient. À quoi ils servaient. Et donc on a cherché, on a essayé de reconstruire un visage du prêtre fait de solidarité, de soins aux autres, de l'apostolat où finalement le prêtre se dépense pour aller aider l'autre, ce qui est très bien, attention, on est là pour ça aussi, mais on avait oublié que le cœur du prêtre, c'est d'offrir le Saint-Sacrifice de la messe. Et c'est ce qui est dit par l'évêque au moment où il ordonne le prêtre, reçoit le pouvoir de l'ordination pour offrir le sacrifice. C'est ça le sacerdoce. Tout le reste en découle. On se dit souvent pourquoi est-ce que dans le sacerdoce, le bréviaire est obligatoire sous peine de péché. Le prêtre doit dire son bréviaire tous les jours, sinon il commet un péché grave. Hein. Et l'Eucharistie, elle est facultative. Au sens où il n'y a pas de péché grave, attention, il n'y a pas de péché grave lié à l'absence d'Eucharistie chez le prêtre dans sa journée. Il n'est pas tenu, sous peine de péché, de dire la messe tous les jours. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut réviser un peu notre notion de pourquoi est-ce que je fais les choses ? Parce qu'elles sont obligées sous peine de péché ou parce qu'elles font partie de mon identité. Il est bien évident qu'il est plus important pour un prêtre de célébrer la messe que de dire le bréviaire. Et plus important pour l'Église tout entière que le Saint-Sacrifice soit célébré plutôt que les prêtres récitent leur bréviaire. Et pourtant, l'un est associé à un péché, si on ne le fait pas, et l'autre, non. Alors, après, on prend du recul, comme ça, avec... pourquoi est-ce que je fais les choses ? Il y a des choses importantes qu'on peut ne pas faire sans péché, qu'on peut ne pas faire et on ne pêche pas en ne les faisant pas. Et pourtant, elles sont plus importantes que d'autres. Si on ne les fait pas, on pêche. Qu'est-ce qui compte réellement dans la vie du prêtre ? Ce n'est pas d'éviter le péché. C'est d'offrir Saint-Sacrifice de la messe. Et son identité, elle est là. Un prêtre qui raisonne en disant « comment je peux passer ma journée sans péché ?» Bah, il se trompe. C'est comment je dois réaliser ce que je suis. Et là, bah, c'est l'Eucharistie, bien évidemment, qui passe avant toute autre chose. Bon. Ce sacrement a un double effet. Alors attention, là, c'est justement ce pourquoi je vous ai préparé. Premier effet, qui consiste, donc premier niveau de réalité, premier niveau de profondeur, qui consiste dans la consécration elle-même du sacrement. Car, par la vertu des paroles citées plus haut, le pain est changé en corps de Jésus-Christ et le vin dans son sang. De manière cependant que Jésus-Christ tout entier est contenu sous les espèces du pain qui demeure sans sujet. Je n'entre pas dans les différents termes qui sont employés ici, on les approfondira en parlant de la présence réelle. Jésus-Christ tout entier est aussi contenu sous les espèces du vin. Donc il n'y a pas un demi-Jésus dans le pain, il y a un demi-Jésus dans le vin. Ce qui fait que quand on communie au corps du Christ, on communie à Jésus tout entier. Bon, ça c'est quand même une vérité de base, mais à rappeler pour dire pourquoi est-ce qu'il n'y a plus que la communion sous une seule espèce, ça ne change absolument rien quant à la réalité contenue dans la communion. C'est Jésus-Christ tout entier, qui n'est pas coupé en deux, si bien que même il est tout entier sous n'importe quelle partie de l'hostie consacrée, du vin consacré, si on les sépare. Vous avez là, en fond, donc tout le mystère de ce qu'on appelle la transsubstantiation, qu'on va creuser une prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a dans l'hostie ? On dit le corps du Christ. Mais est-ce qu'il y a le corps tout seul ? Pourquoi dit-on qu'il n'y a pas que le corps, mais qu'il y a Jésus tout entier ? Comment se fait-il qu'il soit tout entier ? Que du coup, si il y a Jésus tout entier, il y a la divinité qui est là aussi ? Comment tout ça ça semble. Sous quel état est le Christ dans l'hostie ? Est-ce qu'il est sanglant ? Est-ce qu'il est en train de souffrir sa passion ? Est-ce qu'il est glorieux dans le ciel, comme il l'est en ce moment ? C'est des questions qu'on va soulever, elles ont des réponses. Et puis, de là, vous voyez combien la doctrine est... Rien n'est inventé. Qu'est-ce que dit saint Thomas ? Il part de la parole du Christ. « Ceci est mon corps ». Il n'y a pas de parole plus simple. « Ceci est mon corps ». Donc, ceci que je vois, l'hostie, c'est le corps du Christ. Ça signifie, c'est le corps du Christ. Le verbe être, avec toute sa force, c'est le corps du Christ. De là découle donc la présence réelle, la foi dans la présence réelle sous les deux espèces, le pain et le vin, et la présence réelle dans chacune des parties de ces espèces consacrées. Que si je coupe le pain en deux, l'espèce du pain en deux, ceci est mon corps. Donc le corps du Christ tout entier est contenu dans chacune des parties de l'hostie. C'est le coupe en quatre. Pareil, et on en arrive à ce développement de l'Église, qui est un développement, il faut le reconnaître, de la prise de conscience que dans chacune des parcelles de l'hostie, il y avait Jésus tout entier. Et même la plus infime partie, la parcelle, ce n'est pas du pain. C'est quelque chose. C'est le corps du Christ. Si on arrête de penser que la parcelle la plus petite n'est pas le corps, est le corps du Christ, il faut bien dire qu'est-ce que c'est. La seule conclusion possible, c'est que c'est du pain. Donc, là, il n'y a plus de présence réelle. Plus de transsubstantiation. Il y a quelque chose dans le ceci, un petit morceau, parce qu'il s'est détaché, qui redevient du pain, alors que c'était le corps du Christ. Là-dessus, la doctrine de l'Église est extrêmement claire, et elle a approfondi ça. Chaque morceau de ce qui était autrefois du pain est, vers être, est le Christ. Tout entier, corps, sang, âme et divinité, d'où le développement de la communion sur la langue, pour éviter que ces parcelles ne tombent, ce respect grandissant de l'Église, comprenant mieux le mystère de la présence réelle, et qui en vient au rite ancestral de la communion sur la langue, avec le plateau de communion, avec les purifications qui sont faites tout au long du rite de la messe, à partir du moment où le corps du Christ est présent, avec les doigts joints. Tout ça, en effet, le Christ ne l'a pas fait, probablement. Mais aujourd'hui, remettre en cause tous ces rites de délicatesse, de respect par rapport au corps du Christ, c'est remettre en cause toute une doctrine de vérité sur la présence réelle. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, suite, je pas que c'est la seule cause, mais je crois que c'est assez lié quand même. Suite au changement d'attitude, des gestes et des signes face à la présence réelle, on en arrive aux États-Unis à 75% des croyants qui ne croient plus que c'est vraiment le corps du Christ. Le geste exprime la foi. Et il n'est pas étonnant non plus qu'aujourd'hui, de nombreuses voix dans l'Église et de nombreux cardinaux redemandent à ce qu'on communie sur la langue. Il y a une absurdité, on en reviendra là-dessus, mais il y a quelque chose qui, moi, là-dessus, c'est quand même terrible. Mère Teresa disait que c'était l'une des choses les plus terribles dans la religion aujourd'hui. À Rome, au Vatican, interdiction de donner la communion sur la main. Vous avez vu des vidéos, là, il y a un truc qui a circulé il y a 2 semaines encore. Communion au Vatican, interdiction de donner la communion sur la main. Benoît XVI, interdiction, il refusait. Et aujourd'hui, là, le temps que ça descende. Alors à nous de croire, de retrouver cette attitude, on en parlera en profondeur. C'était juste un aparté. Voilà. Pour ce qui est de l'autre effet du sacrement. Donc ça, la présence réelle, premier niveau de réalité. Il y a encore quelque chose derrière. Deuxième niveau, pour ce qui est de l'autre effet de ce sacrement, c'est qu'il produit dans celui qui le reçoit dignement. On verra les conditions pour recevoir l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il produit? L'union de Jésus-Christ avec l'homme. Le cœur, le trésor de l'Eucharistie, la res tantum, la grâce sacramentelle de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est l'union de moi avec Jésus-Christ. Comme le dit Saint Jean au chapitre 6, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et dans ce deuxième niveau, il y a encore un truc caché. Et parce que par la grâce, l'homme est incorporé au Christ et qu'il est uni à ses membres, ceux qui le reçoivent dans les saines dispositions méritent de voir la grâce augmenter en eux. On creusera cet aspect du mystère de l'union spirituelle avec Jésus quand je communie, qui engendre en moi une augmentation de la grâce sanctifiante. Qu'est-ce qui est le plus important? L'union au Christ ou la grâce sanctifiante? L'union au Christ. C'est le seul sacrement dans lequel les choses sont à l'envers, si vous voulez. La chose la plus précieuse est avant et vient causer quelque chose d'un peu moins précieux, l'augmentation de la grâce. Le trésor de l'Eucharistie, il est avant, il est dans le Christ qui est dans l'Eucharistie et qui s'unit à moi. Et s'unissant à moi, il provoque en moi une augmentation de la grâce sanctifiante, m'aidant à me sanctifier. Mais le cœur du cœur, c'est l'union avec Jésus-Christ et, ce que je disais, ce deuxième effet un peu caché, dans cette union avec Jésus-Christ, il y a aussi l'union avec les autres chrétiens. Cet aspect-là est malheureusement bien oublié. L'Eucharistie a pour finalité d'unir les chrétiens entre eux et de construire le corps mystique de l'Église. C'est ce que saint Thomas va répéter après. Donc il résume sa pensée. Ainsi donc, dans ce sacrement, il y a quelque chose qui est sacramentum tantum, signe seulement, à savoir l'apparence elle-même du pain et du vin. Notez bien déjà, pas faire de confusion, le sacrement, le signe, c'est pas le pain et le vin. Le signe, c'est l'apparence du pain et du vin. Ce qu'on va appeler plus tard, quand on va creuser un peu, les accidents du pain et du vin, ce qui demeure alors que la substance elle-même est changée. L'écrin accidentel qui cache la substance du corps du Christ. Cet écrin est le même avant la consécration et après la consécration. Les accidents du pain et du vin ne changent pas. Et c'est ça, cette permanence des accidents, les accidents eux-mêmes, qui sont le signe derrière lequel je perçois par la foi quelque chose qui est réalité et sacrement, à savoir le vrai corps de Jésus-Christ, et enfin quelque chose qui est réalité seulement, à savoir, alors là, saint Thomas change de formulation. Au début, il disait « union de Jésus avec l'homme », Et là, il nous dit unité du corps mystique, c'est-à-dire de l'Église. Quelques mots juste sur cette finale. La réalité seulement, l'unité du corps mystique, c'est-à-dire de l'Église, que ce sacrement signifie et produit. L'une des richesses, c'est pas la seule, mais l'une des richesses de l'Eucharistie qu'on oublie bien souvent, c'est que en communiant, je m'unis aux autres membres de l'Église. Dans la vision de saint Thomas, dans la vision de saint Paul, avant tout, l'Église, les gens qui ont la foi, constituent entre eux un corps. Ce qu'on appelle le corps mystique du Christ, une prolongation du Christ lui-même, dans lequel nous sommes tous unis entre nous parce que nous sommes unis au Christ. Et j'insiste sur ce « parce que ». C'est moi qui suis uni à Jésus par la foi, par les sacrements de la foi, par l'Eucharistie. Et mon voisin, qui est lui aussi uni au Christ, et parce que nous sommes tous les deux unis au Christ, alors nous sommes unis l'un avec l'autre et nous constituons le corps mystique du Christ. La vision de saint Paul et saint Thomas d'Aquin, elle est véritablement verticale. Et nous sommes tombés, malheureusement, je crois aujourd'hui, dans une vision complètement horizontale du corps mystique du Christ. Et je crois que ça a influencé un aspect de la réforme de l'Église, la réforme du rite, dans laquelle l'insistance sur le partage, j'en ai parlé la dernière fois un peu, sur la communauté qui célèbre la messe, sur le peuple de Dieu qui se réunit, qui fait corps autour de l'Eucharistie, devient presque plus important que cet aspect transcendant de chacun de nous unis avec le Christ. Je ne peux être uni à mon voisin que si moi je suis d'abord uni avec le Christ. Cet ordre, il est extrêmement important, c'est le même ordre d'ailleurs pour la charité. Le chrétien ne peut exercer une vraie charité autour de lui que si lui d'abord est uni avec le Christ. Et on en vient parfois, je crois, à oublier cette réalité verticale de moi uni avec le Christ et travaillant mon union avec le Christ par ma vie personnelle, par mes efforts, par mon état de grâce, par ma vie sacramentelle, en insistant presque uniquement sur l'aspect social et corporate de l'Église. Il n'y aura de corps que si il y a une âme qui nous unit tous. Et j'ai l'impression que parfois cette âme n'est plus évoquée. Et cette âme, c'est quoi? C'est Dieu. Et là, notamment, le Christ et l'union avec le Christ, c'est l'Esprit Saint, c'est la grâce qui passe à travers chacun de nous et qui fait que nous pouvons faire corps entre nous. Si bien quelqu'un qui n'a plus la grâce, en réalité, s'exclut du corps mystique de l'Église. On rentrera un peu dans les détails une autre fois. Mais j'insiste sur cet ordre-là. C'est d'abord mon union avec le Christ, et ensuite, et comme une conséquence, mon union avec mon voisin, avec ceux qui sont autour de moi. C'est comme ça que saint Paul lui-même voit l'Eucharistie. Je vous ai mis la citation, je crois. Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même ce que je vous dis, dans 1 Corinthiens 10. Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous formons un seul corps. D'où vient l'unité? De l'unité divine. Il n'y a pas d'autre unité entre les hommes spirituels, ou qu'il faille rechercher, que cette unité autour de l'unité divine, symbolisée par l'unité du pain. Et là, il y a tout un thème développé par les pères de l'Église, tout comme le pain, l'Eucharistie, est composé d'une multitude de grains de blé, ou que le vin est composé d'une multitude de grains de raisin, eh bien, il ne fait plus qu'un à la fin. Eh bien, il en est de même pour le corps du Christ qui s'unit tous les membres pour ne faire plus qu'un dans le Christ. Et ce dans le Christ, je trouve, bien souvent, il est oublié et qu'on veut une unité comme un absolu, l'unité comme absolu, comme l'absence de dissension, de division, de, il faut être un, il faut être un, il faut être un, mais à quel prix? S'il faut être un en mettant de côté le Christ, c'est hors de question. S'il faut être un en mettant de côté la foi et la vérité de la foi, c'est hors de question aussi, parce que le Christ, il est vérité. Tous ces thèmes-là sont très actuels, très 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 actuels. Aujourd'hui, avec le synode sur l'Amazonie, dans lequel on réfléchit justement à ces thèmes-là. Savoir comment aller vers des peuples qui, en effet, n'ont pas été évangélisés ou pas assez bien. Comment trouver une unité avec eux, quel trait d'union, quel pont. On parle de construire des ponts, c'est très bien. Il faut construire des ponts entre les hommes. La vision du Christ, c'est en effet une seule et même Église. La grande fraternité des hommes, c'est des thèmes tout à fait chrétiens. À la fin, il n'y aura plus qu'une seule Église triomphante au ciel. Mais c'est quoi l'unité? L'unité pour un chrétien, c'est le Christ. Et c'est le Christ qui fait l'unité. Si on coupe la tête, et le Christ est la tête du corps mystique, il n'y a plus de corps. Tout se délite. Si on enlève l'âme, les parties peuvent être assemblées entre elles de manière bizarre, mais il n'y a plus d'unité réelle. À bien remettre en lumière. Voilà. Toujours pour essayer de découvrir déjà certaines richesses de l'Eucharistie, la présence réelle, l'union au Christ, l'union de l'Église dans le cadre, quand je communie, je crée l'Église. L'Église ne vit que par l'Eucharistie. C'est des thèmes très très justes. D'autres thèmes à mettre en avant en regardant un petit peu les différents noms que l'on peut donner à l'Eucharistie. Vous savez que saint Thomas, non seulement était un grand théologien, mais c'était aussi un beau poète. Il a le beau chez saint Thomas est quelque chose de très important. Et il est aussi connu pour être l'apôtre, véritablement le théologien de l'Eucharistie. On raconte qu'il a eu une vision après avoir écrit son De Eucharistia, dans la Somme théologique, le traité sur l'Eucharistie, une vision du Christ qui lui aurait dit « Tu as bien parlé de moi, tu as bien parlé de mon sacrement. » Et cette réputation, il l'avait déjà étant vivant. Si vous voyez tous les tableaux de saint Thomas, vous le verrez en train d'écraser l'hérésie d'un pied, ce qui est très, très fort, et de tenir un ostensoir dans l'autre, montrant que c'est l'Eucharistie qui est la vérité, qui contient la vérité, ça contient le Christ. Et du coup, à cette époque-là, au moment de saint Thomas, on se pose la question, il n'y a pas encore d'office au Saint-Sacrement. Il n'y a pas encore de messe. Cette messe qui maintenant est le jeudi, la fête Dieu qu'on appelle aujourd'hui, ça n'existait pas. Et donc le pape fait venir deux grands théologiens, saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, et les lance un peu un petit défi en disant chacun, vous allez me rédiger, m'écrire un office complet, ça veut dire texte de la messe, lecture du bréviaire, hymne, tout ça, vous allez l'inventer, l'écrire, pour qu'il y ait enfin une fête universelle de la fête Dieu. Et chacun fait son truc dans son coin, deux grands théologiens, saint Bonaventure est un très grand théologien aussi. Et le pape les appelle ensuite, et le hasard fait que c'est saint Thomas qui commence le premier à exposer ce qu'il a préparé, saint Bonaventure étant à côté et écoutant pieusement. Et saint Thomas commence à lire tout simplement les hymnes et tout ce qu'il a composé pour faire prier le peuple de Dieu sur l'Eucharistie. Et l'histoire raconte que pendant que saint Thomas lit son texte, Bonaventure derrière met les mains derrière le dos et déchire sa feuille tranquillement. Et lorsque le pape lui demande « Et vous maintenant ?», Bonaventure dit « Je n'ai rien à dire, vous avez votre office. » Et en effet, et voilà, donc c'est le texte de saint Thomas qui a été choisi. Et donc, la messe de la fête Dieu d'aujourd'hui, tous les textes, sauf les textes bibliques bien sûr, mais tous les textes ont été composés par saint Thomas d'Aquin lui-même. Et il y aurait, on va essayer de le faire de temps en temps, un grand intérêt à aller voir comment saint Thomas transpose la doctrine de l'Eucharistie dans ses textes poétiques, des hymnes que vous récitez encore aujourd'hui, le « Au vrai corps de Jésus » de tout à l'heure, « Au verum corpus », c'est saint Thomas. Là, je vous ai mis le « Au sacrum convivium », c'est saint Thomas aussi. Donc, tout ça, c'est saint Thomas qui, amoureux de l'Eucharistie, a su mettre en poème sa vision théologique. Donc allez jeter un coup d'œil, on le fera de temps en temps. Donc là, je vous ai mis le Haut Sacrum Convivium. Pourquoi ? Parce qu'il résume très simplement les trois grands regards qu'un sacrement nous appelle à poser sur lui. Un sacrement nous envoie dans trois directions différentes. C'est un enseignement classique, mais oublié encore aujourd'hui, malheureusement. Un sacrement nous envoie vers le passé, vers le présent et vers le futur. Et quand je reçois un sacrement, je suis en connexion avec une réalité passée qui s'amène à moi, avec une réalité présente et avec une réalité future. Dans l'Eucharistie, la réalité passée avec laquelle je suis mis en connexion, c'est, à pas de doute, le sacrifice du Christ. Lorsque je vais à la messe, c'est un thème qu'on creusera, je vais au Golgotha. Il y a une vraie réalité là-dedans. Ça n'est qu'un aspect, mais un aspect important. Lorsque je vais à la messe, je suis mis en contact direct avec ce qui s'est passé réellement il y a 2000 ans au Golgotha. On célèbre, donc je vous ai mis la traduction en français, au banquet sacré où l'on reçoit le Christ. On célèbre le mémorial de la Passion. C'est la rémémoratio, le souvenir mémorial du sacrifice du Christ. Et c'est en ce sens, on creusera, que l'Eucharistie est appelée le sacrifice. La messe, c'est le renouvellement du sacrifice du Christ sur la croix. L'âme est remplie de grâce. Deuxième regard, ce qui se passe au moment même où je reçois l'Eucharistie, c'est la communication, la communion avec le Christ. Et un regard vers l'avenir, la gloire future, le gage nous est donné. L'Eucharistie, c'est le gage du ciel, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le viatique. L'Eucharistie est viatique, c'est l'un de ses noms, viatique qui signifie nourriture pour le voyage. C'était un mot profane avant, hein, un viatique. C'est la nourriture dont j'ai besoin pour mon voyage. Et il y a là tout un aspect de l'Eucharistie comme nourriture nécessaire dont mon âme a besoin pour continuer le voyage vers le ciel, le viatique. On a donné ce nom particulièrement à l'Eucharistie reçue après l'extrême-onction. Autrefois, même encore aujourd'hui, le prêtre vient, il confesse, il donne l'extrême-onction et il donne la communion, et ça s'appelle viatique. Mais on peut considérer que chaque Eucharistie reçue est un viatique pour la route. Et donc saint Thomas, dans un article que je vous ai mis, je crois, développe tous ces thèmes. Donc à l'égard du passé, c'est un sacrifice. À l'égard du présent, c'est l'union avec le Christ. À l'égard de l'avenir, c'est le viatique. On n'a pas tout dit, loin de là. Et il y a bien d'autres dons qui nous permettent de décrire ce sacrement. Eucharistie d'abord. Eucharistie, c'est le nom un peu global qu'on retrouve le plus généralement. Qu'est-ce qu'il signifie, action de grâce ? Il vient historiquement de ce récit de l'institution que vous entendez tous les dimanches à la messe. Jésus, prenant du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses apôtres en disant. Et c'est de cette action du Christ, rendant grâce, qu'est venu le mot Eucharistie comme étant un acte. La messe, c'est un acte d'action de grâce à Dieu. Retenez-le, j'y reviens tout de suite. Eucharistie. Parmi les autres noms qu'on donne à ce sacrement, sacrement de l'autel, qui manifeste l'aspect sacrificiel, scène du Seigneur ou sainte scène. Alors ce mot-là apparaît avec le protestantisme, qui, vous le savez, va insister tout particulièrement sur l'aspect du repas et refuser radicalement l'aspect du sacrifice. Ça, c'est l'hérésie protestante qui a été condamnée, où, du coup, on refuse d'appeler la messe le sacrifice du Christ. Il n'y a plus de sacrifice après la mort du Christ. En revanche, c'est un repas purement et simplement. Et du coup, on a forgé le mot en référence au repas du Christ de la scène. La messe devient la sainte scène. Ce qui n'est pas faux, C'est pourquoi l'Église, après, reprend ce terme, sans trop de difficulté, d'appeler la messe la Sainte Cène. Mais là, ce n'est pas faux d'appeler la messe la Sainte Cène, bien sûr, ce n'est même pas faux d'appeler la messe un repas. La messe est un repas. Il y a tout il est vrai que dans la réforme et tous les débats et tout ça, on insistait beaucoup pour dire que la messe est un repas, et donc les tradis parlent, non, c'est pas un repas, c'est un sacrifice. Non, c'est les deux. C'est les deux. Et c'est là, je vous dis, c'est tellement mystérieux la messe que si on met l'accent que sur un truc, on risque de s'éloigner de la vérité. Il faut arriver à avoir une vue globale que je vais essayer de vous donner. Donc c'est un repas, c'est une action de grâce, c'est un sacrifice, c'est le Saint-Sacrement, au sens où c'est le plus grand de tous les sacrements. Si on a 5 minutes, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le Saint-Sacrement et l'adoration du Saint-Sacrement, bah, c'est ça que ça évoque, hein. Qu'est-ce que je regarde ? Un sacrement. Ce que vous voyez dans c'est un sacrement, c'est-à-dire un signe sensible, les espèces du pain et du vin, dans lequel il a été caché Dieu. Donc on adore le Saint-Sacrement. On adore un sacrement. On adore ce qui est caché derrière un sacrement. C'est le seul sacrement des 7 que l'on peut adorer. Pourquoi ? Parce que c'est le seul sacrement dans lequel la réalité cachée demeure. Je l'avais dit la dernière fois, tous les autres sacrements, c'est ça passe. La vertu de Dieu passe dans l'eau et va dans l'âme de l'enfant, et il demeure, mais ne reste pas dans l'eau. Tandis que là, le seul sacrement où la réalité, la force divine, la présence divine, demeure dans le sacrement. Et donc on adore le sacrement, alors qu'on n'adore pas l'eau avec laquelle on vient de baptiser l'enfant. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le Saint-Sacrement. Et enfin, on l'appelle aussi la messe. C'est le mot le plus commun qui vient tout simplement. Alors, je vais chercher un peu parce que je trouve ça un peu. L'origine, semble-t-il, ne vient que de l'ite missa est, le dernier mot que le prêtre dit. Aller, missa, c'est du verbe mitere, envoyer, l'envoi. Aller, je vous envoie, ou c'est l'envoi plutôt, et non pas c'est fini. C'est pas missa est, c'est pas fini, c'est vous êtes envoyé. Donc l'aspect. Et donc, on a appelé la messe en fonction de cette expression-là, pour manifester l'aspect missionnaire aussi de la messe, qui est un point de départ, si vous voulez. Un envoi, après, pour aller propager le Christ qu'on a reçu tout autour de nous. Et de tous ces termes-là, l'Église a voulu en faire rejaillir un tout particulièrement, comme englobant les autres sans les altérer, et c'est le mot sacrifice. Et ça, c'est un des axes sur lesquels je vais insister la prochaine fois, en regardant ne serait-ce qu'en regardant les textes de la messe, la définition de la messe, tout ce qu'il y a. Je ne comprends pas, parce qu'on va essayer de comprendre comment cette réalité du sacrifice de la messe, l'idée que la messe est un sacrifice, a tant disparu de la pensée des fidèles. Et ça, avant même le Concile Vatican II, avant même la Réforme, c'était une réalité qui était de plus en plus éloignée de la pensée des fidèles, alors que tout nous pousse à l'affirmer. Comment mieux mettre en valeur l'idée d'action de grâce que le sacrifice d'action de grâce, qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament et que le Christ accomplit. La messe est un sacrifice d'action de grâce. Comment mieux mettre en valeur l'aspect de repas qu'en assistant sur l'aspect de sacrifice, de communion. Si la messe est un repas, c'est parce qu'on communie à quoi ? À une victime. D'ailleurs, on a gardé le mot hostie. Hein, je crois que tout le monde le dit encore. C'est l'hostie. Hostie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire victime. C'est tout. Ça veut rien dire d'autre. Hostia, ça veut dire victime. Donc en disant hostie, déjà, je me mets dans l'idée du sacrifice. Je communie à une victime qui a été offerte en sacrifice. On ne peut pas distinguer, séparer l'aspect de repas de l'aspect de sacrifice. Au contraire, l'aspect de sacrifice englobe en lui l'aspect du repas. Et donc enlever le sacrifice, c'est, je crois, déconstruire la messe. On a beau essayer de garder tout le reste, il manque ce principe unificateur. La messe est un sacrifice auquel je communie et qui est offert pour la gloire de Dieu, l'action de grâce et pour obtenir mon salut. Là, on a tout dit et on arrive à tout mettre dedans. Si on oublie ça, on est devant un, un mystère fabriqué, c'est-à-dire quelque chose d'incompréhensible, parce qu'on a refusé d'y réfléchir un peu. Voilà. Il est 36, je le vois bien. Donc juste un dernier mot chez saint Thomas sur cette idée de la grandeur de l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie est le sacrement le plus grand? Vous avez mis le texte de saint Thomas, par cette grande réalité qui est la source de toute notre contemplation, qui est la source de l'adoration eucharistique, notre joie la plus profonde, c'est que dans l'Eucharistie, Jésus est vraiment présent. Et ça, la présence réelle, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à cette vérité de Jésus qui reste dans le pain et le vin, qui y demeure, qu'on peut adorer, qu'on peut visiter, c'est ça qui fait que l'Eucharistie est de très loin le plus grand de tous les sacrements. Saint Thomas l'exprime avec ses mots à lui, en disant que tous les autres sacrements ne contiennent qu'une vertu transitoire, instrumentale, tandis que l'Eucharistie contient substantiellement le Christ lui-même. Et après, si on regarde tous les autres sacrements, on voit comment tous les sacrements orientent vers l'Eucharistie. Le baptême et la confirmation sont la porte de l'Eucharistie, traditionnellement, j'en ai parlé la dernière fois. La pénitence nous rend accessible l'Eucharistie. L'ordre, par excellence, est le sacrement qui permet l'Eucharistie. L'extrême onction est liée à la réception du corps du Christ, tout ça saint Thomas l'exprime, et le mariage en lui-même est une image, et en cela il est lié à l'Eucharistie. Ce qu'il y a de beau dans le mariage, spirituellement parlant, c'est qu'il est l'image de l'union de l'Église et du Christ. Et ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'Eucharistie. Donc tout nous amène à l'Eucharistie, et toute la puissance sacramentelle découle aussi de l'Eucharistie. Et s'il fallait résumer en un mot, aujourd'hui, j'ai 2 minutes pour résumer en un mot, ça va. Il n'y a pas d'acte plus grand qui soit posé aujourd'hui que la messe. Il faut en être intimement convaincu. C'est aujourd'hui, même de toute éternité, a priori, je réfléchis vite, mais je crois bien, de toute éternité, l'acte le plus grand qui puisse être produit, plus grand et plus beau que la création elle-même, la messe. D'abord parce que, à 3 points de vue, d'abord parce que c'est l'acte de Dieu. La messe, c'est principalement l'action du Verbe incarné, de Dieu Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'adressant à son Père. À la messe, on assiste à un dialogue entre les deux personnes divines. C'est d'abord ça, la messe. Et nous, on est d'abord là à regarder ça. Et ça nous dévoile le profond mystère d'amour qu'il y a eu pour notre salut. Le Père a envoyé son Fils pour offrir un sacrifice. Et le Fils, le Verbe incarné, Dieu, offre en tant qu'homme